l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Durant la crise sanitaire liée au Covid-19, le do-it-yourself ou faire soi-même a attiré beaucoup de monde au pays du matin clair. Aujourd'hui, avec la hausse incessante des prix, cette tendance qui répond aux impératifs économiques mais aussi au désir de pratiquer une activité manuelle et créative s'amplifie davantage. Et les thématiques se diversifient également. Autrefois, on s'adonnait essentiellement au bricolage ou à la décoration d'intérieur. Mais désormais, la fabrication de ses produits de beauté ou d'entretien et la personnalisation de sa voiture ont également le vent en poupe. Un certain Lee, 58 ans, qui habite dans le nord-ouest de Séoul, a récemment remplacé lui-même les pellicules solaires teintées pour fenêtres de sa voiture. Initialement, il voulait confier la tâche à un garagiste, mais le coût s'est avéré trop élevé. Du coup, il a opté pour le kit Do It Yourself pour soulager son porte-monnaie. Il n'a pas réussi du premier coup, mais il ne s'est pas laissé décourager par les difficultés, car il a entendu dire que l'application des films solaires est l'une des opérations sur les voitures qui nécessitent le plus d'habileté. Finalement, il y est arrivé et il en est tout fier. Et même en tenant compte du prix des films ratés, cela lui est revenu moins cher que le service proposé par le garagiste. Un trentenaire nommé Kim a lui aussi appliqué des pellicules à la surface de sa voiture de ses propres mains. Le tarif de ce service chez un garagiste est passé de 300 000 à 400 000 won, soit de 224 à 300 euros en quelques mois. Alors Kim s'en est chargé en dépensant seulement environ 40 000 won, l'équivalent de 30 euros. En effet, Kang, le patron d'un garage situé dans le sud-ouest de la capitale, confirme que les tarifs d'installation des films teintés ont augmenté de près de 20% ces derniers mois, en raison de la hausse des prix des matériels. Il sait bien que le relèvement des tarifs risque de faire tourner les talons à ses clients, mais il dit qu'il n'y peut rien face à la flambée des prix. Sur Internet, les forums où les participants échangent leur savoir-faire lié à la personnalisation de leur voiture prospèrent. L'installation d'ampoules LED dans l'habitacle est l'un des sujets les plus populaires sur ces sites de discussion. La fabrication des produits de beauté attire aussi de plus en plus d'adeptes. L'apprentissage des bases de la fabrication de cosmétiques est désormais facile avec la multiplication des tutoriels sur YouTube, mais aussi des vidéos de cours en groupe organisées par les grandes surfaces. Jean, une femme au foyer âgée de 48 ans, crée ses propres produits cosmétiques depuis quelque temps. Elle estime qu'elle fait d'une pierre deux coups, car cela lui permet non seulement d'économiser, mais aussi de se passer des substances à risque comme les conservateurs. Madame Sang, une femme au foyer âgée de 61 ans, a récemment décroché le certificat d'aptitude à l'enseignement du coréen en catégorie 3, qui correspond au niveau le moins élevé. Son mari va bientôt prendre sa retraite. Le couple a décidé de passer leur retraite à l'étranger. Pour Madame Sang, une qualification d'enseignement du coréen est très vite apparue comme un viatique utile qui lui permettrait de travailler à l'étranger pour arrondir les fins de mois tout en se faisant plaisir. Avec la popularité grandissante de la culture coréenne, avec sa musique, ses films et ses dramas, la cote de la langue coréenne monte également partout dans le monde. Parallèlement à l'augmentation des apprenants de cette langue, ils sont aujourd'hui nombreux au pays du matin clair à vouloir obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement du coréen. Selon l'Institut national de la langue coréenne, le nombre cumulé de titulaires de ce certificat s'élève à 70 700 en juin 2022. En 2006, l'année où cette qualification a été créée, seules 868 personnes l'ont obtenue. C'est au début des années 2010 que le certificat d'enseignement du coréen a eu le vent en poupe. En 2011, 1810 personnes au total ont décroché ce certificat. Depuis, ce nombre a grimpé pour atteindre 6100 en 2016 et 8200 l'année dernière. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce certificat est particulièrement populaire auprès des personnes d'âge moyen, voire des seniors. En effet, depuis 2019, le nombre de nouveaux titulaires chez les personnes âgées de 40 à 59 ans a dépassé celui des 20 à 39 ans. Parmi les personnes ayant obtenu le certificat à l'issue du dernier examen en date, qui a eu lieu en avril dernier, 1116 étaient des quinquagénaires, alors que seulement 518 avaient entre 20 et 29 ans. En effet, contrairement aux jeunes qui ont toujours une préférence pour des emplois dans les grandes entreprises ou dans la fonction publique, les personnes plus âgées, proches de leur retraite, plus ou moins libérées de l'obligation de gagner de l'argent, sont nombreuses à considérer l'enseignement du coréen comme une option viable et intéressante pour leur vie après la retraite. Heureusement, les débouchés ne manquent pas. Par exemple, l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, qui gère divers programmes d'aide dans les pays en développement, recrute spécialement des quadragénaires et des quinquagénaires pour grossir son équipe chargée des cours de coréen. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter Free Smile, interprété par Hyoli et Ichanyok.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 25 juillet. Monsieur X, trentenaire avancé, a fait des études d'économie et a rejoint une société de courtage en bourse en 2013. Il a commencé par un poste d'assistant de recherche touchant un salaire mensuel de 2,5 millions de won, soit 1870 euros. Jugeant son revenu insuffisant pour se constituer un patrimoine, il a emprunté 300 millions de won, soit 224 000 euros, et s'est lancé dans les investissements. Lorsque ses placements ont atteint un taux de rendement de 100%, il a quitté son travail. L'année dernière, grâce à la forte hausse de ses investissements dans les crypto-monnaies et les actions, son patrimoine a été porté à près de 2 milliards de won, soit environ 1,5 million d'euros. Or, depuis le début de cette année, la situation a changé avec la chute des cours des actifs financiers. De plus, ces derniers mois, la hausse des taux d'intérêt pèse lourd. La charge des intérêts qu'il doit supporter chaque mois s'élève désormais à 2,8 millions de won ou 2 000 euros. Il ne peut plus vivre de ses revenus issus de ses financements. Depuis quelques semaines, il se prépare à passer un examen de licence d'agent immobilier tout en envoyant son CV dans des entreprises. Sur fond de baisse des actifs comme les actions boursières ou les crypto-monnaies, ils sont de plus en plus nombreux en Corée du Sud comme lui à faire volte-face après avoir rêvé de prendre leur retraite à 40 ans sous l'impulsion du mouvement FIRE. En effet, depuis quelques années, le mouvement FIRE a gagné beaucoup d'adeptes chez les jeunes sud-coréens. Pour rappel, il signifie « Financial Independence Retire Early » ou « Indépendance financière, retraite précoce ». La clé de ce mouvement, c'est la règle des 4%, établie par des spécialistes des finances américaines dans les années 90. Selon cette règle, si le pourcentage des bénéfices que vous obtenez de vos investissements est de 4%, vous pourrez vivre pour toujours des avantages annuels sans faire baisser vos économies. Or, dans le contexte économique actuel, marqué par la chute des valeurs mobilières, l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt, atteindre 4% de rendement annuel est loin d'être évident. Alors les jeunes qui ont quitté ou mis en suspens leur emploi après avoir profité d'investissements dans les actions ou les crypto-monnaies sont désormais nombreux à chercher à rejoindre le rang des travailleurs, que ce soit comme salariés ou comme indépendants. Gu Jong-woo, professeur de l'université Sang-Yun-Kwan, lui, estime plutôt que ceux qui ont tenté un coup de poker sous le prétexte du mouvement FIRE se sont fait échauder par les dangers de la volatilité et redécouvrent aujourd'hui la valeur du travail et de la stabilité. Un avis qui n'est sans doute pas totalement faux. Le 18 juillet dernier, vers 13h45, devant une salle du tribunal des faillites de Séoul, située dans le sud de la capitale, une vingtaine de personnes attendaient leur tour d'un air fébrile et inquiet. Parmi elles, des hommes âgés avec des cannes, des livreurs portant une casquette et des protège-bras, ou encore des femmes d'âge moyen dans des tenues peu soignées. Quelques instants après, la porte s'est ouverte et toutes ces personnes sont entrées dans la salle. À 14h précise, le juge a ouvert l'audience. Il a commencé par prononcer quelques mots d'encouragement aux personnes présentes dans la salle avant de leur expliquer la procédure qui sera mise en place. Ces personnes-là sont en fait des particuliers surendettés qui avaient déposé une requête pour bénéficier d'un redressement personnel et qui avaient été convoqués ce jour-là au tribunal pour l'audience. Précisons que les personnes en situation de surendettement peuvent obtenir une réduction de leur dette en recourant au plan de redressement personnel s'ils ont des perspectives de travail et de revenus sur les années à venir ou en se déclarant en faillite si ce n'est pas le cas. Selon les données de la Cour suprême sud-coréenne, entre 2020 et 2021, en pleine pandémie de Covid-19, le nombre de dossiers de redressement personnel déposés au tribunal a été de 83 700 en moyenne annuelle et celui de dossiers de faillite personnelle de 49 700. La situation n'est pas meilleure cette année, car pour le seul mois de juin, ont été déposées quelque 7200 demandes de redressement personnel et 3500 demandes de faillite personnelle. Ces surendettés sont souvent des commerçants et des auto-entrepreneurs qui ont fait les frais de mesures de distanciation sociale liées au Covid-19. Mais il y a aussi des travailleurs qui ont perdu leur emploi, se sont donc tournés vers les investissements en actions ou en crypto-monnaie et ont fini par se surendetter. Avec l'accalmie des contaminations observées ces derniers mois, ils étaient cependant nombreux à nourrir l'espoir que l'année 2022 serait meilleure que les deux dernières années. Mais depuis quelques semaines, des signes de recrudescence de virus se multiplient dans le pays, avec des dizaines de milliers de cas chaque jour. Alors de nombreux Sud-Coréens sont aujourd'hui de nouveau gagnés par l'incertitude et l'inquiétude. Et pour notre deuxième pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson du groupe Monday Kids intitulée « Appen Gyeokeulo, Namun Kedelo » ou « Souvenir douloureux du passé ». Au sortir de la guerre fratricide il y a 7 décennies, la Corée du Sud était ravagée et le pays manquait de tout. De nombreuses organisations humanitaires se sont mobilisées pour venir en aide au peuple sud-coréen en proie à la pauvreté. Parmi elles, Haifer International, une ONG internationale à but non lucratif créée en 1944 aux États-Unis, qui a pour but d'éradiquer la pauvreté et la faim dans le monde. Cette organisation a offert entre 1952 et 1976 un total de 3200 animaux, dont 897 vaches et 58 taureaux à des fermes, des orphelinats ou encore des écoles de formation agricole au pays du matin clair. Ces aides ont permis à de nombreuses familles paysannes locales de reconstituer leur cheptel, d'atteindre l'autosuffisance et de sortir de la pauvreté et ont également contribué au rétablissement du secteur agricole du pays. Or, les aides de Haifer International ne se sont pas arrêtées là. Et ont constaté les dégâts causés par la guerre sur l'écosystème des terres agricoles, l'ONG a eu l'idée d'envoyer des abeilles à la Corée du Sud afin de contribuer à la restauration de cette dernière. Car ces insectes aident à la polliniser les plantes en volant de fleur en fleur. Lee Hae-won, président de la branche sud-coréenne de Haifer International, explique que selon les informations de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, 71% des principales plantes agricoles du monde sont pollinisées par des abeilles. En avril 1954, une opération baptisée Arche de Noé a été lancée par Haifer International afin d'offrir quelque 1,5 million d'abeilles aux fermes sud-coréennes. Ces insectes ont été répartis dans 200 ruches avant d'être transportés par avion aux côtés de 75 chèvres et de 500 lapins vers la Corée du Sud. Les notes rédigées à l'époque par des responsables de l'ONG indiquent comme suit. L'utilisation massive de l'insecticide DDT durant la guerre a provoqué la mort de la plupart des insectes qui pollinisent les plantes alimentaires. Les Sud-Coréens, souffrant de la famine, peuvent désormais procéder à la pollinisation de leurs cultures à l'aide des abeilles qui leur ont été fournies. Selon Lee Hae-won, les conditions de vol de l'avion cargo ont été réglées de manière à assurer la sécurité des abeilles durant le transport. Par exemple, l'appareil a volé à 1200 mètres d'altitude au lieu de 2400 ou 2700 mètres habituellement. Depuis mai 2021, la branche sud-coréenne de Haifa International mène un projet qui consiste à transmettre le cadeau que la Corée du Sud a reçu à d'autres pays. Dans le cadre de ce programme, une centaine de vaches coréennes de qualité supérieure seront offertes aux agriculteurs du Népal dès le mois de novembre prochain. Le bureau local de l'ONG internationale se prépare également à fournir une assistante commerciale et technique au secteur de l'élevage des poulets dans un autre pays en voie de développement en Asie du Sud-Est. En se rappelant le fait que durant la guerre de Corée, l'organisation avait offert quelque 216 000 œufs à couver aux éleveurs sud-coréens pour qu'ils puissent se redresser. Le 12 juillet dernier, un bus était garé au milieu d'un complexe d'appartements résidentiels situé dans l'arrondissement de Gangbuk, dans le nord-est de Séoul. À bord du véhicule, l'espace était divisé en deux par une cloison. Dans chacune des deux parties se trouvaient une table et des banquettes. Les gens qui faisaient la queue à l'extérieur entraient et sortaient calmement. Ce bus est en fait un cabinet de soutien psychologique ambulant mis en place par la ville de Séoul, dans lequel on peut passer un test psychologique et avoir un entretien avec un spécialiste sur la base des résultats de l'analyse, et ce, gratuitement. Le test le plus populaire est celui de la variabilité de la fréquence cardiaque. Il permet de déterminer le degré de sensibilité au stress de l'individu. Kim So-yoon, l'un des membres de ce cabinet ambulant, explique que si une personne présente un niveau élevé de stress, de dépression ou d'anxiété, elle est orientée vers un établissement spécialisé. Selon Kim, une ou deux, voire trois personnes en moyenne sont transférées par jour. C'est en mars dernier que le centre de santé mentale de la ville de Séoul a mis en service ce cabinet de soutien psychologique mobile. Outre les tests psychologiques et les entretiens avec des spécialistes, les visiteurs peuvent également faire l'expérience d'un entraînement de méditation ou de concentration à l'aide d'un appareil de réalité virtuelle. Ce bus visite chaque semaine un ou deux quartiers de la ville, choisis à l'avance par les mairies de l'arrondissement. Ils se rendent prioritairement dans les quartiers où la part des seniors ou des monoménages est importante. Ces derniers temps, les entreprises ou les associations sont également de plus en plus nombreuses à solliciter ces services pour le bien de leurs employés. Le carnet de réservation est déjà plein pour les deux mois à venir. Un responsable de la ville de Séoul a noté que depuis le début de la crise sanitaire, les citoyens portent un intérêt croissant à leur santé mentale. Avant de faire savoir que la municipalité envisage actuellement d'étendre le service du cabinet psychologique ambulant pour qu'un plus grand nombre de citoyens puissent en bénéficier. Et c'est le moment à présent de passer le micro à Lee Ji-eun pour Focus Asie. Avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une nouvelle chanson de Park Jae-bum ou J-Park intitulée Need to Know.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est la Thaïlande, qui s'est rétractée sur l'utilisation d'un logiciel de surveillance auprès des individus. Samedi dernier, le ministre thaïlandais de l'économie et de la société numérique, Chayu Thanakamanuson, est revenu sur sa parole selon laquelle la Thaïlande a utilisé un logiciel espion pour surveiller certains militants anti-régime. Selon le journal The Bangkok Times, le ministre a affirmé que les spywares étaient utilisés pour des affaires liées à la sécurité nationale ou au trafic de drogue et non directement par le gouvernement thaïlandais. Or, il y a une semaine, le laboratoire Citizen Lab de l'Université de Toronto et l'ONG thaïlandaise ILAW ont déclaré qu'au moins 30 Thaïlandais liés aux manifestations antigouvernementales ont été espionnés avec le logiciel Pegasus. Contrairement à l'Agence nationale de la police, qui a tout de suite nié ces accusations, le ministre a admis mercredi dernier que les soupçons étaient vrais. Il a indiqué à l'époque qu'un programme dont il n'a pas divulgué le nom a été employé pour écouter des conversations téléphoniques et avoir accès à l'écran ou à des messages. Déplaçons-nous en Indonésie où la polémique sur l'utilisation du cannabis à des fins médicales gagne du terrain. D'après le quotidien Kompas, la Cour constitutionnelle indonésienne a la semaine dernière refusé la demande de sa légalisation du fait qu'elle manquait de recherches qui appuient les allocutions des demandeurs. Elle a en revanche appelé le gouvernement à lancer des études qui pourraient éventuellement servir de fondement pour la révision de la loi sur les stupéfiants. En 2020, trois femmes indonésiennes mères d'enfants atteintes d'une paralysie cérébrale ont saisi cette juridiction en prétendant que la législation actuelle viole les droits des citoyens à profiter du progrès du service médical et des avancées technologiques et scientifiques. Une association civile soutenant les plaignantes a critiqué qu'avec cette décision, les gens qui consomment du cannabis pour raisons médicales continueraient à être punis. Nous nous dirigeons maintenant en Malaisie. Les douanes malaisiennes ont saisi la semaine dernière une immense quantité de parties d'animaux sauvages en voie de disparition à Port-Klang sur la côte occidentale du territoire. Selon le quotidien Dostar, 6 tonnes de défense d'éléphants, 100 kg d'écailles de pangolins et 29 kg de cornes de rhinocéros, entre autres, ont été découverts. Ces cargaisons d'une valeur de 80 millions de ringgit, soit plus de 17 millions d'euros, proviendraient d'Afrique. Ces marchandises illégales étaient dissimulées dans un conteneur avec du bois. Les autorités publiques sont en train de traquer les contrebandiers. La Malaisie est l'un des principaux pays de transit de la contrebande des parties animales. La destination finale est souvent la Chine. À Hong Kong, le doyen des pandas a été euthanasié jeudi dernier à 35 ans, qui équivaut à un âge humain de 105 ans. À en croire l'agence Associated Press, le zoo Ocean Park a déclaré avoir pris cette décision difficile après avoir consulté des experts chinois. Le panda géant appelé An An, qui souffrait d'hypertension, a vu sa santé se détériorer ces dernières semaines. Né dans la province du Sichuan en Chine en 1986, An An a été envoyé à Hong Kong avec sa compagnie Jia Jia en 1999. Il a passé la plupart de sa vie dans ce parc zoologique. Jia Jia monte à l'âge de 38 ans en 2016 et la femelle panda à avoir vécu le plus longtemps en captivité. Voici notre dernière nouvelle. Au Vietnam, dans un avion qui s'envolait de Ho Chi Minh Ville en direction de Hanoï la semaine dernière, une dame âgée assise près d'une fenêtre a sorti un couteau long de 20 cm. Puis elle a commencé à éplucher des fruits avec. Un des membres d'équipage de cabine lui a tout de suite confisqué le couteau. À la suite de cette affaire, l'autorité de l'aviation civile du Vietnam a ordonné de renforcer le contrôle de sûreté auprès des passagers. En vertu du règlement actuel, les couteaux dont la lame dépasse 6 cm sont interdits en cabine. En cas de violation, une amende de 10 millions de dong, soit près de 420 euros, est imposée.
Voilà, ainsi s'achève notre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Choi Soyeon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.